Bienvenue à l'église au cœur de la ville. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment à l'écoute de ce message.
On va donc commencer, ou plutôt poursuivre, notre série dans l'intimité de Dieu. On avait vu une première partie la dernière fois. Et on poursuit, puisque ce psaume, il y a vraiment quatre strophes. C'est un chant, tous les psaumes sont des chants. Et on peut découper ce psaume en quatre strophes. On avait vu la première strophe qui allait du verset 1er jusqu'au verset 6. Et on va poursuivre du verset 7 jusqu'au verset 12 ce matin. Donc on a vu précédemment les 6 premiers versets. Et au travers de ces 6 premiers versets, nous avons partagé sur cette intimité du Dieu qui sait tout. Le Dieu omniscient. Qui nous aime tout particulièrement, et ça c'est important, et qui nous conduit à nous émerveiller sur ce qu'il est. C'était les trois points que nous avions vus en parcourant ces 6 premiers versets. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les 6 versets suivants. Où aller loin de toi? Où fuir loin de ton regard? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là, tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. Je peux dire, je veux me cacher complètement dans l'obscurité, que le jour devienne nuit autour de moi. Mais pour toi, même l'obscurité est lumière et la nuit éclaire comme le jour. Obscurité ou lumière pour toi, c'est la même chose. Amen. Oui, avec David, nous devons réaliser que Dieu sait tout. Il connaît tout. Et c'est en soi une grâce particulière et un sujet d'émerveillement. Mais plus que de le réaliser, le fait de vivre en toute conscience et d'expérimenter pleinement ce qu'implique cet attribut divin, cette qualité divine, on pourrait dire, est une source d'apaisement pour notre âme. Que Dieu sache tout. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre à Dieu? Ce serait aberrant de prier, de dire « Tiens Seigneur, je voulais t'apprendre quelque chose. » Il n'y a rien que tu vas dire à Dieu que Dieu ne sait déjà. Il sait tout. Quelle grâce pour nous d'avoir un Dieu qui sait tout. Comme le déclare David, rien n'échappe à la connaissance du Dieu omniscient. Et la question qui découle de cette affirmation est, si Dieu connaît tout, alors est-il pour autant partout? Parce que pour tout savoir, faut-il être partout? Vous allez dire oui, non. Je peux avoir des personnes qui me rendent compte de ce qui se passe ailleurs pour faire remonter les informations jusqu'à moi. Mais Dieu sait tout et il est aussi partout. Il n'a besoin de personne pour lui ramener l'information à sa connaissance. D'ailleurs, quand on a besoin de quelqu'un pour nous ramener l'information à notre connaissance, on n'est pas toujours sûr que l'information soit réellement bien traitée. Un Dieu pleinement présent en tout lieu. Le verset 7 de notre psaume commence par deux questions que se pose David. Où aller loin de toi? Où fuir loin de ton regard? Où aller loin de toi? Où fuir loin de ton regard? Et à ces deux questions, David se met à la place d'une personne qui cherche à fuir Dieu. Si je devais te fuir, pour plus que tu me voies, où me faudrait-il aller? Quel est l'endroit, le lieu où je pourrais échapper à ton regard, être occulté à ta vue, Avec ces deux questions, donc, David se met dans la peau, à la place d'une personne qui cherche à fuir Dieu, pouvoir échapper à son regard, sortir de son champ de vision, pourrait être notre désir à certains moments de notre vie, non ? Qui n'a jamais espéré pouvoir échapper à Dieu ? Qui n'a jamais été tenté de vivre comme s'il n'existait pas ? N'est-ce pas une fuite en soi de vivre comme si Dieu n'existait pas ? Une grande majorité des gens de notre pays vivent comme si Dieu n'existait pas. Qui n'a jamais ressenti le poids du regard de Dieu sur sa vie alors que la tentation attirait son cœur ? Qui n'a jamais souhaité se cacher de Dieu comme un enfant de son père afin de faire des bêtises sans crainte d'être puni ? Qui n'a jamais souhaité vivre dans l'anonymat vis-à-vis de Dieu ? La Bible fait mention de certaines personnes qui ont cherché désespérément à fuir Dieu. Les deux premières, c'était qui ? Adam et Ève. Dont il est dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 8, qu'après avoir péché, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Chacun de nous a certainement déjà ressenti combien le péché, une fois consommé, produit une volonté de s'éloigner de Dieu. Généralement, quand on a péché, on n'a pas envie de dire « Ouais, il faut vite que j'aille vers Dieu ». On n'a qu'une envie, c'est de prendre de la distance. On n'a pas envie d'aller le confronter. Ainsi confronter le Dieu saint et juste, lorsque le péché tiraille notre âme et que notre conscience nous accuse, ce n'est pas quelque chose de facile, agréable et enviable d'un point de vue charnel. Notre chair, elle ne dit pas « Allez, vas-y, va voir Dieu, tu viens de pécher, ça va te faire du bien. » La chair a dit tout le contraire. Continue à pécher, reste loin de lui. Puis nous découvrons, dans le livre de la Genèse, chapitre 4, versets 13 à 14, l'exemple d'une autre personne qui a fui Dieu, c'était Caïn. Qui, après avoir tué son frère Abel par motif de jalousie, a dit à Dieu « Ma punition est trop lourde à porter. Aujourd'hui, tu me chasses de la bonne terre. » Et il dit « Je vais être obligé de me cacher loin de toi. J'irai toujours d'un endroit à un autre et je ne pourrai jamais m'arrêter sur la terre parce que quelqu'un qui fuit Dieu ne peut jamais s'arrêter. » Il est dans un mouvement constant et permanent. Il est dans une recherche qui n'est jamais assouvie. Et celui qui me trouvera pourra me tuer, dit Caïn. C'est-à-dire, je suis en danger permanent et constant parce que j'échappe à la providence divine. J'échappe à la protection de Dieu sur ma vie. Je ne me considère plus comme étant sous les regards de Dieu, sous la bienveillance de Dieu vis-à-vis de ma vie. Je serai tout le temps en mouvement et tout le temps en danger. Et celui qui fuit Dieu est tout le temps en mouvement, dans une insatisfaction permanente. Et il est tout le temps en danger. Caïn souhaita lui aussi échapper à Dieu. Et ils sont nombreux ceux qui se sentent obligés, comme Caïn, de se cacher loin de Dieu. Et comment ne pas citer Jonas, qui lui aussi, en raison de sa désobéissance, essaya de fuir loin de Dieu. Dans Jonas chapitre 1, verset 3, il est dit « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, et il est dit « Loin de la face de l'Éternel ». On découvre à travers ces quelques exemples glanés dans les Écritures que si le péché met une séparation entre nous et Dieu, c'est nous-mêmes qui creusons, par nos comportements, par nos attitudes, toute la distance et toute la profondeur de l'abîme qui nous sépare souvent de lui. C'est pas Dieu qui dit « Oh, tu as péché !» Je vais creuser un abîme profond et large pour me séparer de toi. C'est nous qui le creusons, cet abîme profond et large, par nos comportements et nos attitudes. D'ailleurs, c'est intéressant de voir ce que le prophète Ésaïe va nous dire au chapitre 59 et au verset 2 de son livre, C'est Dieu qui parle, il utilise la bouche de son prophète, et il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Il y a une séparation entre nous et notre Dieu. Et comme Ésaïe l'a écrit, la séparation entre nous et Dieu entraîne la conséquence terrible que nous ne voyons plus Dieu et non pas l'inverse. Nos péchés nous cachent sa face, mais Ésaïe ne dit pas « nos péchés l'empêchent de nous voir ». Nous, on ne le voit plus, mais il continue à nous voir. On a beau creuser et creuser une séparation, on n'échappe pas au regard de Dieu pour autant. Pécher, c'est pas sortir du champ de vision de Dieu. Quand tu pèches, Dieu te voit. Il te voit pas uniquement dans la prière. Il te voit pas uniquement dans l'église. Il y avait une petite histoire qu'on se racontait il y a bien des années de ça, cette petite citation. Une fourmi noire sous une pierre noire. Dans une cave noire, l'œil de Dieu la voit. Pour vous dire, une fourmi noire sous une pierre noire, dans une cave noire, l'œil de Dieu la voit. Elle n'échappe pas au regard du Tout-Puissant, du scrutateur de toutes choses. Il soutient toutes choses, nous dit l'auteur des Hébreux. Dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit, rien n'échappe à ses regards. Il est même dit qu'il n'y a pas un seul cheveu de ta tête qui tombe sans que l'Éternel ne le voie et n'en soit au courant. Rien. Même les oiseaux du ciel font l'objet de sa bienveillance. Cependant, chacun de ces personnages bibliques aurait pu dire, comme David, que toutes ces entreprises de fuite furent finalement vaines. Tous ceux et celles qui ont cherché à fuir Dieu n'y sont jamais parvenus. J'ai souvent dit, malheur à toi si le diable te poursuit. Mais crois-moi, si c'est Dieu, c'est pire. Je préfère que le diable me court derrière plutôt que ce soit Dieu. Tu ne peux pas échapper à Dieu. Où irais-tu ? Pour lui échapper. Tous ceux et toutes celles qui ont cherché à fuir Dieu n'y sont jamais parvenus. Par la bouche du prophète Jérémie, Dieu dit à son peuple Israël, dans Jérémie chapitre 23, versets 23 et 24, le Seigneur déclare, est-ce que je suis seulement le Dieu de ce qui est près ? Est-ce que je ne suis pas aussi le Dieu de ce qui est loin ? Le Seigneur déclare, si quelqu'un se cache, je peux le voir. Je suis partout, dans le ciel et sur la terre. Vous ne savez donc pas cela ? Il est en train de dire à son peuple, vous vous comportez comme si je ne voyais pas. Vous ne savez pas que je vois tout ? Évidemment, quand Dieu parle comme ça, il attend à ce qu'il y ait une réaction chez nous de se savoir regarder constamment par Dieu devrait nous amener à peut-être changer certaines choses dans nos vies, réformer certaines choses dans nos vies, vous ne croyez pas ? N'y a-t-il pas ici matière à manifester aussi de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu ? Parce que quelle garantie nous avons dans le fait que Dieu, nous n'échappons jamais à son regard, à sa vigilance ? Est-ce qu'une maman qui aime son enfant de tout son cœur peut garantir à son enfant « tu n'échapperas » jamais à mes regards et à ma vigilance. J'aurai toute ta vie mes regards sur toi. Elle a beau l'aimer, forcément cet enfant échappera à la vigilance de sa maman et de son papa. Mais tu ne peux échapper au regard de Dieu, à la vigilance de Dieu. Là où certains peuvent voir une oppression, un contrôle, parce que c'est sûr, si ta fille de 25 ans t'es toujours en train de l'épier, 24 sur 24, elle va sentir comme une oppression et un contrôle. Et là où certains voient une oppression et un contrôle de la part de Dieu, l'enfant de Dieu, il voit une grâce divinement paternelle, protectrice et rassurante. Et on devrait louer Dieu. Oh, merci Seigneur de ce que tes regards sont toujours sur moi. Quelle garantie pour ma vie, quelle paix pour mon âme de savoir que tu ne me quittes jamais du regard. Pas même l'instant d'un clignement de paupières. Dieu ne cligne pas des yeux. Vous, vous clignez des yeux et pendant une fraction de seconde, il y a des choses qui échappent à votre regard. Mais Dieu ne cligne jamais des yeux. Il ne cesse de voir et rien n'échappe à son regard. Alors on pourrait se poser la question où le Dieu de l'intimité ne serait pas. C'est alors que David, après avoir partagé sur l'omniscience de Dieu, va considérer son omniprésence et lui rendre gloire. Parce que tout ce psaume est à la gloire de Dieu. En effet, le psalmiste décrit admirablement bien le fait qu'il n'existe aucun lieu dans tout l'univers, sur la terre, ou au-delà des mers, dans les cieux, ou même dans le Shéol, dans le séjour des morts, où l'on peut fuir hors de la présence de Dieu, ou dit autrement, Dieu est présent dans chaque partie de l'espace et du temps, étant donné qu'il est aussi intemporel. Il est présent en tout lieu de l'espace, mais aussi du temps. Et ça, c'est un formidable attribut. Que celui de l'omniprésence. Et David n'utilisa pas moins de 6 nouveaux versets pour donner quelques-unes des implications d'un tel attribut dans sa vie à lui. Le fait d'avoir un Dieu omniprésent, qu'est-ce que ça apporte à ma vie ? Qu'est-ce que ça apporte à ta vie ce matin d'avoir un Dieu qui est non seulement omniscient, mais aussi un Dieu qui est omniprésent. Parce qu'on parle souvent, « Oh mais Dieu, on le connaît, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. » Oui, ouais, ouais, c'est bon, tu balances tes définitions théologiques, t'as bien appris la leçon du pasteur. Mais qu'est-ce que ça amène à ta vie, concrètement, dans le terrain de l'expérience chrétienne? Qu'est-ce que ça procure à ta vie de savoir ces choses? En quoi tu les réalises? Ainsi, David commence à déclarer que Dieu est présent partout par son esprit, en posant simplement ces deux questions. « Où aller loin de toi ?» dans la traduction que je vous ai lue, la traduction seconde peut-être dans vos Bibles, dit « Où irai-je ? Loin de ton esprit ? Où fuir ? Loin de ton regard ?» Et Dieu va éclairer cette réalité par une série de contrastes, plutôt David, excusez-moi, va éclairer cette réalité par une série de contrastes qui sont très poétiques. Je vous rappelle qu'on est dans un cantique, un chant. Et il y a des expressions très poétiques. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas réel. Ainsi, au verset 8 et 9, il est question du monde à venir par le contraste qui est établi entre le séjour des morts et le monde présent. Contraste. Puis David met en contraste les dimensions opposées de hauteur concernant les cieux. Si je fuis aux cieux, c'est-à-dire je m'enfuis dans la direction de la hauteur. Et la profondeur du séjour des morts, entre hauteur et profondeur, comme il le fait également avec la notion de distance. Donc, on avait vu la verticalité entre les cieux et la profondeur du séjour des morts. Et là, il est en train d'amener une notion d'horizontalité en parlant de la distance de l'extrémité de la mer avec le lieu où il se tient. Même si je vais à l'extrémité des mers, que j'aille en hauteur, en profondeur, ou que je mette de la distance, Seigneur, t'es là. Paul s'exprima de la même manière dans Romains chapitre 8, verset 38 et verset 39, et il le prend comme une bénédiction, Paul, lui. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien. J'ai beau même essayer de fuir, ça sert à rien. Il est là. Il est là. Mais avant d'arriver à cette conclusion, David a cherché dans quelle direction il aurait pu s'évader, en s'élevant jusqu'au ciel. David va dire, mais c'est la demeure de Dieu. Alors s'il me fallait fuir Dieu, C'est vraiment pas là que je dois aller. C'est sa demeure. Alors, en descendant dans le séjour des morts, comme font ceux qui se suicident pour mettre fin au tourment de leur conscience, si je me suicidais, alors là, j'échappe à Dieu. Mais là aussi, Dieu règne et ses jugements s'exercent en ce lieu. La mort ne m'amène pas à échapper à Dieu. Pas du tout. Et encore moins à ses jugements. Serait-il possible d'échapper à Dieu en allant aux extrémités de la terre ? Même si le fugitif prenait les ailes de l'aurore, c'est-à-dire s'enfuyant aussi rapidement que le soleil levant illumine la terre, vous avez vu quand le soleil se lève et d'un seul coup, vous ne le voyez pas, et d'un seul coup, sa lumière traverse l'espace, ses rayons traversent, et la lumière apparaît. David est en train de dire, si j'arrivais à me déplacer à la vitesse de la lumière, est-ce que Dieu me verrait et me rattraperait ? La main de Dieu serait plus prompte encore et me saisirait, dit David. Dieu, par la bouche du prophète Amos, dans Amos chapitre 9, versets 2 et 3, va dire « S'il pénètre dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'il monte aux cieux, je les en ferai descendre. S'il se cache au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. » Rappelez-vous la dernière fois, il m'entoure par derrière, par devant, il pose sa main sur moi. C'est « il m'encercle, il met un siège autour de moi ». C'est ça la définition de ce verset. « S'il se dérobe à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai au serpent de les mordre. » Tu ne pourras pas lui échapper. C'est impossible. Et on pourrait se poser la question, mais que représentent réellement ces ailes de l'aube ou de l'aurore et les confins de la mer dans les versets 9 et 10. Si je m'envole sur les ailes du matin ou de l'aurore pour aller au-delà des mers ou aux confins des mers. Pour l'israélite, l'aube représentait quoi ? Vous êtes en Israël, l'aube, c'est quoi ? C'est le lever du jour. C'est où alors le lever du jour ? En quelle direction ? À l'est, c'est-à-dire l'extrême orient. Pour aller aux confins des mers. Où est la mer pour un juif ? À l'ouest. Si je partais de l'est, de l'extrême-orient, pour aller jusqu'en Occident, que je traverse toute la terre entière, les deux extrêmes, Orient, l'extrême-orient et l'Occident, l'extrême-occident, il y a un nouveau contraste faisant suite à celui du ciel et du shéol, c'est-à-dire du séjour des morts. J'aurais beau partir à l'opposé du globe, il sera encore là. Jonas était vraiment un insensé. Je vais partir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, dit-il. Mais dis-moi, c'est où, loin de la face de l'Éternel ? Il avait un problème théologique, Jonas, quand même. Et tous ceux qui pensent pouvoir fuir loin de la face de Dieu n'ont pas tellement compris qui était Dieu en réalité. L'image poétique des ailes de l'aube du jour fait penser à la puissance et à la rapidité avec lesquelles le soleil semble parcourir l'espace immense qui sépare ces deux points extrêmes de l'extrême orient et de l'extrême occident. Si nous avions cette puissance et cette rapidité, il ne s'en trouverait pas moins dans notre fuite. Que dans notre fuite, c'est celui-là même que nous chercherions à fuir, qui nous conduirait, et lui qui, à notre arrivée, nous saisirait. Et David le dit, si j'allais aussi vite que les ailes de l'aurore pour traverser de l'extrême-orient à l'extrême-occident le ciel, tu me prendrais par la main, tu me saisirais, tu me ramènerais à toi. Oh, la vitesse de Dieu pour nous saisir! Tu ne peux lui échapper. Que tu sois dans une fuite horizontale ou verticale, Dieu te rattrape. David nous invite dans son psaume, comme le fit Paul plus tard dans Éphésiens 3, 14 à 19, à considérer la grandeur et l'amour fidèle de Dieu à notre égard. Parce que, je vous l'ai dit, le chrétien considère ça comme quelque chose de magnifique. Parce que nous, on le voit sur la fuite et on n'aime pas être attrapé quand on fuit. Demandez au voleur, ah, tu t'es fait gauler par le gendarme, ça te plaît? Ah bah non, ça me plaît pas. Quand on fuit, on n'a pas envie d'être attrapé. Mais sincèrement, parce que je sais qui est Dieu, si un jour je suis en fuite, je suis tellement content de savoir qu'en fait, j'arriverai pas. Et qu'il va me rattraper. D'ailleurs, je me pose la question, faut-il vraiment fuir ? À cause de cela, dit Paul, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre, c'est bien ça l'objectif, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte, parce que ça c'est la finalité, que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu en nous se réalise dès l'instant où on commence à comprendre qui est réellement notre Dieu, quels sont ses attributs, et qu'est-ce que ça fait rejaillir sur notre vie. Alors là, le point suivant, c'est jouer à cache-cache avec Dieu. Parce qu'il y en a qui n'ont pas compris que Dieu est omniprésent, donc ils s'amusent à jouer à cache-cache avec lui. En dernière ressource, David dit que le fugitif pourrait tenter de se dissimuler dans les ténèbres, comme font ceux qui veulent échapper au regard des hommes. Versets 11 et 12, je peux dire, je veux me cacher complètement dans l'obscurité, que le jour devienne nuit autour de moi. Mais pour toi, même l'obscurité est lumière. Et la nuit est claire comme le jour. Obscurité ou lumière, pour toi, c'est la même chose. Et puis, il n'a pas les visées nocturnes des militaires, vous savez. Il ne dit pas, tiens, il fait nuit, je vais mettre mes jumelles à visée nocturne. Pour lui, jour et nuit, ça n'entrave pas sa vision des choses. Là encore, cette sécurité serait totalement illusoire, car rien n'est obscur pour celui qui a créé la lumière. On pourrait se dire, je vais me mettre en sécurité dans le noir. Qu'est-ce que c'est illusoire? Qu'est-ce que c'est, excusez-moi l'expression, immature? Immature dans la foi et dans la manière dont on la vit. J. Kantelbach va dire, en réalité, aucun subterfuge ne peut empêcher Dieu d'intervenir dans notre vie. Et si ce n'est pour sauver, ce sera pour punir. Rien ne peut le tromper. Et rien n'échappe à son regard, que ce soit pour te sauver ou pour te juger à un moment donné. Tout est compté et comptabilisé. Aux yeux de celui qui voit tout. Quelle folie que de penser pouvoir échapper à Dieu. C'est une folie. Ainsi même, si nous pouvions monter aux cieux, nous envoler au bout du monde, nous envelopper des ténèbres, descendre dans le sépulcre, nous n'échapperions pas à l'Éternel. Avec Dieu, il est impossible de se cacher. Il met le doigt sur toutes nos manipulations, nos petites combines. Il connaît toutes nos motivations et il lit toutes nos pensées. Ça va comme ça? Alors, puisqu'il sait tout et qu'il est partout, pourquoi penser pouvoir le tenir à l'écart? Il y en a qui ont résolu autrement de se mettre à l'écart de Dieu, c'est le bouder. Je sais que t'es là, mais je te boude, je te parle pas. Oh, c'est une fuite aussi, qui est aussi insensée que la première. Voilà ce qui découle des questionnements de David au psaume 139. Les efforts que nous pouvons faire pour tenter d'échapper à Dieu sont vains et illusoires. Mais il est important ici de réaliser qu'en dehors de Dieu, il n'y a aucune sécurité véritable. Aucune. Peut-être êtes-vous ce matin comme Jacob qui s'enfuyait loin de chez lui, pensant échapper au problème. Peut-être vous pensez-vous être libre alors que vous êtes encore l'esclave de vos propres passions. Jouez-vous à cache-cache avec Dieu. Fuyez-vous Dieu même dans vos pensées en évitant de penser à lui. Comment faire l'abstraction de Dieu Je sais qu'il existe, mais je fais comme s'il n'existait pas. Je te zappe, diraient les jeunes. Ça vous arrive de zapper Dieu ? Je te zappe, je te calcule plus. Qu'est-ce que c'est enfantin ? Qu'est-ce que c'est enfantin ? Seulement au sein de nos fuites, comme cela fut le cas pour Jacob, nous découvrons que Dieu garda toujours les yeux sur lui, comme il les garde sur nous. C'est pas parce que tu fuis que Dieu dit « Laissons-le aller, j'ai autre chose à m'occuper. » Ah non. Dans ta fuite, il garde les yeux sur toi. Quand après la chute, Dieu appela Adam dans le jardin, croyez-vous qu'il ignorait où Adam se trouvait ? Où es-tu, Adam ? Où es-tu ? Je me cache. Où es-tu ? Quelqu'un sait où il est ? Si c'est ça votre lecture biblique. Genèse 3:9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu ? La véritable question de Dieu n'illustrait pas une impossibilité de Dieu de voir Adam, mais Dieu lui demandait, pourquoi es-tu là ? Qui fais-tu ? D'habitude, tu ne mets pas d'obstacle entre toi et moi, là tu te caches. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu penses échapper à mon regard ? Pourquoi es-tu là ? Qui fais-tu ? Que se passe-t-il dans ton âme, là ? Regarde, à toi ! C'est quoi ta motivation, là ? Comment t'es-tu réduit à cet état-là ? À vouloir te cacher de moi ? Qu'est-ce qui se passe dans ton âme ? Je sais où tu es. Je ne te pose pas la question où tu es. En te posant la question où tu es, c'est dans quel état tu es. Et peut-être que Dieu ce matin dit à quelqu'un en particulier, mais où es-tu ? Mais en réalité, c'est où en es-tu ? T'as beau te cacher là, dans ton comportement, ton attitude et tout ce que tu veux, mais moi, je sais où tu en es dans ton cœur, dans ton âme. Rien n'échappe à mon analyse et à mes regards. Tu te caches, tu joues les hypocrites, mais rien n'échappe aux yeux de celui qui voit tout, même dans nos fuites. Question que Dieu nous adresse fréquemment par sa parole et par notre conscience pour nous retirer de l'étourdissement du péché. Parce que oui, le péché nous étourdit spirituellement. Et auquel nous devons prêter une sérieuse attention. Car c'est dans sa bonté que Dieu nous les adresse. Malheur à ceux qui ne se demandent jamais, par rapport à eux-mêmes, où es-tu, Xavier ? Que fais-tu ? Pourquoi es-tu autant troublé actuellement ? Une telle indifférence est un des grands chemins de l'enfer. Au lieu de te poser mille et une questions sur Dieu, parce que si tu peux mettre tous les absolus, c'est en Dieu que tu vas les trouver. Enfin, les absolus saints, j'entends. Pose-toi plutôt des questions sur toi, te questionne pas sur ton pasteur, sur tes frères et tes sœurs. On est prompt à trouver comment les autres devraient se comporter. Mais regardez comment vous vous comportez vous-même. T'auras pas à rendre des comptes pour ton mari, ta femme, ton frère, ta sœur ou même ton pasteur. T'auras des comptes à rendre pour ta propre vie. Le temps que tu regardes sur les autres, t'oublies de te voir toi-même. Et les défauts des autres, c'est bizarre, c'est comme les phares des voitures. Ils nous éblouissent, mais on ne se pose même pas la question. Ah, c'est peut-être parce que je suis en plein phare qui m'éblouit avec les siens, là. On ne voit pas, nous, qu'on éblouit les autres par nos défauts, par nos comportements, nos attitudes. Et on se dit, ah, regarde comment il m'éblouit, celui-là, là. Mais qu'est-ce qu'il a ? Ah oui, tiens, j'avais mes phares. Vous connaissez l'image de la poutre et de la paille ? Ah oui, mon frère a une paille. Mais comment allez vouloir lui enlever alors que moi j'ai une poutre dans mon œil ? Bah hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil et tu verras comment finalement ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère, à moins qu'un petit coup de vent de l'esprit puisse lui avoir retiré. Réalisez-vous que l'omniprésence de Dieu est l'essence même de sa fidélité et de sa justice. C'est parce que Dieu est omniprésent qu'il peut être fidèle. Mon enfant, je serai fidèle en amour avec toi, j'aurai toujours mes regards sur toi. Tu n'y arriveras pas. Même si tu aimes beaucoup, tu seras fidèle que dans la mesure de tes capacités. Mais Dieu est infini dans ses capacités, alors sa fidélité est infinie. Dieu est infini dans sa justice parce qu'il voit tout et qu'il sait tout. Tu auras beau dire, ah non, mais moi non. Toi non. Mais je t'ai vu. J'étais là. Non, non, Seigneur, je ne l'ai pas dit. Non, Seigneur, je ne l'ai pas fait. Mais arrête. Seigneur, je ne l'ai même pas pensé. Dis ça à ton pasteur et à tes frères et sœurs, à ton mari ou à ta femme, mais ne me dis pas ça à moi. Je sonde tes pensées. Tu l'as pensé. Elle signifie que Dieu est présent pour nous conduire et pour nous saisir. Comme cela est mentionné au verset 10. Même là, tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. Waouh ! Si vous êtes dans ma main, nul ne vous ravira de ma main. Tu me tiens solidement. Dieu m'empoigne. Il ne me lâche pas. L'étreinte directrice de Dieu, ce saisissement divin, dépasse de loin nos capacités et nos volontés. Combien de fois mes enfants ont voulu glisser leurs mains de ma main paternelle. Qu'est-ce que je faisais dans ces moments-là? Je serrais encore plus fort. Et plus ils voulaient s'en défaire, et plus je serrais. Pourquoi? Parce que j'avais envie de leur broyer les doigts? Non, parce que je savais le danger qui était autour d'eux. Eux le voyaient pas, mais moi je le voyais. Une fois, Emmanuel a défait sa main de ma main. Il s'est pris la potence d'un vélo en pleine tête. Ça y a sorti une espèce d'œuf de pigeon sur le front. Je ne sais pas s'il s'en rappelle encore, il n'est pas là ce matin. Mais moi, je m'en rappelle encore. Combien de fois avons-nous voulu glisser notre main de la main de Dieu pour aller faire ce que nous avions envie, sans même analyser ou percevoir les dangers qui étaient autour de nous? Pourtant, n'est-il pas dit, mais le lion rugissant rôde autour de vous, il cherche qui il va dévorer. Croyez-vous que Dieu a envie que vous détachiez votre main de la sienne? Il est celui qui nous empoigne parce qu'il nous aime. Oui, on a l'impression que ça nous prive de certaines libertés. Ah, moi j'ai envie, lâche-moi quoi, je veux faire ce que j'ai envie. Je suis indépendant, autonome, je suis libre. Lâche-moi Dieu. Lâche-moi Dieu. Mais tu te rends compte? Rien que d'avoir cette pensée, tout ce que ça soulève, une telle méconnaissance de Dieu de ta part, tu bafoues l'amour du Tout-Puissant, qui ne fait tout que par motif d'amour pour toi, pour te protéger et te garder, et tu y vois une forme d'oppression dans ta vie. Mais qu'as-tu compris de Dieu en réalité? Continue à chercher tes solutions, détache ta main, et avec le temps on se reverra, quand Dieu te fera revenir par le ventre d'un poisson ou je ne sais quelle épreuve. Parce que tu sais, sur les chemins de fuite, il nous devance. Il est toujours là. Il prépare les circonstances de notre retour. Amen. Il devance ses enfants même sur le chemin de leurs errances et prépare ainsi toutes les circonstances pour les convaincre et même les contraindre à revenir vers lui. Eh oui. Quelle grâce de constater que Dieu nous protège contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes. Contre nos propres agissements insensés. Il nous retrouve dans les lieux sombres où nous nous dissimulons. Son amour nous saisit et il nous ramène jusqu'à lui. Allons jusqu'à pousser nos âmes à la repentance. Quoi? Mais moi je croyais que la repentance c'était moi qui la faisais. T'en es encore là? Regarde ce que dit Paul. Romains 2,4. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Et même quand tu te repens, s'il agissait pas en toi, tu reviendrais jamais. Si le salut, on pouvait le perdre, y aurait bien longtemps qu'on l'aurait perdu. Heureusement que c'est lui qui maintient les choses dans nos cœurs et dans nos vies. Mais quel orgueil Mais quelle suffisance de penser que ce sont des choses que nous tenons. Et même quand tu fuis, Dieu parviendra à amener ton cœur à la repentance. Toi, tu crois que c'est toi, de ton bon fond, tu as eu une lumière, une étincelle de conscience dans ta vie qui te permet de dire « Oh, non, mais vaut mieux que je me repente là. » C'est encore lui qui, dans ton cœur, va t'amener et t'attirer à lui. Nul ne peut venir à Dieu s'il n'est attiré par lui. Le Dieu de l'intimité en toutes circonstances. Nous devons réaliser que cette présence de Dieu demeure la même en toutes circonstances de la vie, qu'on soit dans les ténèbres comme dans la lumière. Et au verset 11 et 12, il est dit « Je peux dire, je veux me cacher complètement dans l'obscurité, que le jour devienne nuit autour de moi, mais pour toi même l'obscurité, lumière et la nuit éclairent comme le jour. Obscurité et lumière, pour toi c'est la même chose. » Dans quelles circonstances êtes-vous actuellement ? Lumière ou ténèbres ? Obscurité ou clarté ? Vous ne pressez pas à répondre. C'est peut-être une pénombre. Je suis dans la pénombre. C'est pas tout à fait la lumière. C'est pas réellement les ténèbres. On distingue des ombres et des mouvements. Je vis au pays de l'ombre. Il y en a qui vivent au pays de l'ombre et de la mort. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, le fils prodigue avait voulu fuir les contraintes de la maison familiale. Je m'en irai. J'en ai marre. Trop de contraintes. Je veux dire à mon père, donne-moi la part d'héritage, il n'est même pas mort, mais je veux déjà l'héritage. Pour moi, t'es comme mort, je veux l'argent. Donne-moi l'argent, je vais aller m'amuser, j'ai envie de vivre libre. Hakuna Matata. C'est un grand théologien qui avait dit ça, vous savez. N'est-ce pas le lot final et le point commun de tous ceux qui cherchent à fuir Dieu ? Parce que, en voulant fuir les contraintes de la maison familiale, il se retrouva comment, le fils prodigue ? Seul. La compagnie, c'était quoi ? Des cochons. Et démuni. Il n'avait rien à manger, il mangeait la nourriture des cochons. Et quand on fuit Dieu, on se retrouve seul et démuni. C'est le lot final de tous ceux qui cherchent à fuir Dieu. Quand tenaillé par la faim et sali dans tous les sens du mot, le fugitif est revenu vers son père. De quelle manière a-t-il été reçu, ce fugitif ? Il se leva et alla vers son père, verset 20 du chapitre 15 de l'évangile de Luc. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Son père courut se jeter à son cou et le baisa. Wow. Moi, j'aurais pensé que le fils prodigue aurait couru vers son père et se jeta au cou de son père. Non, c'est le père qui court. Fou. La fuite n'est jamais la solution au problème, qu'elle soit physique, géographique, morale, psychologique, chimique ou même mentale. Vous pouvez mettre plein de choses dans chacune de celles que j'ai écrites là. On peut fuir les hommes et certaines circonstances, mais on ne peut pas fuir loin de Dieu. À chacun des fugitifs, Dieu dit par la bouche du prophète Jérémie, chapitre 3, versets 12 et 13, « Reviens ! Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours, reconnais seulement, c'est la seule part que Dieu est en droit d'attendre de nous, ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel. Reconnais ça. Et même si tu le reconnais, sache que le Saint-Esprit n'y est pas pour rien dans le fait que tu le reconnaisses. Parce qu'il te permet de confronter la sainteté de Dieu face à ta souillure. Ah oui, on n'est pas trop bien quand ça se passe. On n'est même pas bien du tout. Et dans Joël, chapitre 2, verset 13, il y a un appel. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Arrêtez avec les apparences. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Il y a dans le psaume 139 un appel à revenir à Dieu. Un Dieu d'amour et de pardon, à considérer que tout retour vers lui n'est que le fruit ou le résultat de son activité en nous par son Esprit Saint. Notre fuite est toujours du fait de notre responsabilité, mais notre retour à Dieu est toujours du fait de son amour et de sa fidélité. Je suis responsable de fuir Dieu, mais Dieu est responsable du fait que je revienne vers lui. Comprends ça. À ce stade, nous pourrions penser que les circonstances difficiles que nous avons affrontées sont sans doute suffisantes pour nous faire changer et qu'une tempête menaçante, une vallée sombre et quelques jours passés dans le ventre du poisson rendront une personne raisonnable, cherchant sans cesse à partir de ce jour l'intimité de Dieu. Mon œil. À l'exemple de Jonas, nous découvrons en lisant les derniers paragraphes de son histoire un prophète vengeur qui certes a obéi de corps. Il n'avait pas trop le choix, hein, le poisson, il te le recrache. Bon, il a fallu pas y aller à Ninive. Mais il a obéi de corps, mais le cœur fuyait toujours. Son cœur était encore dans la fuite. Attention, Dieu désire que nous capitulions devant lui, mais aussi que nos cœurs se courbent entièrement dans sa présence et désirent aller dans son sens, celle de sa volonté. On observe chez Jonas que sa paix et sa joie avaient disparu, qu'il éprouvait tellement d'amertume qu'il supplia Dieu de le soulager en lui prenant la vie. « Prends-moi la vie, je préfère mourir. » Il obéissait, mais son cœur n'y était pas. Il subissait une contrainte et se maintenait encore dans la fuite. La capacité de l'homme à essayer de faire la volonté de Dieu tout en fuyant dans sa tête, c'est quand même très particulier. L'homme et la femme pouvaient faire nombre de choses pour Dieu par sentiment religieux, par peur ou par contrainte, mais cela ne témoigne pas forcément d'un cœur entier pour Dieu. Comme croyants, nous ne pouvons pas désobéir au Seigneur sans en payer un prix. Notre vie spirituelle faiblira certainement en rapport de nos désobéissances. Les aptitudes et les habiletés que Dieu nous avait accordées s'atrophieront faute d'exercice, pendant que nous gaspillerons du temps et de l'énergie à fuir. Parce que la fuite réclame de l'énergie. Et nous risquerons des pertes dans d'autres domaines. À mesure que les conséquences de nos actions s'accumuleront, le péché peut toucher toute notre famille, nos finances, notre santé, et bien plus encore que tu peux l'imaginer. Vous avez peut-être une habitude, un but ou un plan d'action qui défie actuellement la volonté de Dieu dans votre vie. La question ce matin est la suivante. Continuerez-vous de fuir Dieu? Et pensez-vous être encore hors de sa portée? En avez-vous considéré le prix de votre fuite? Et la manière dont Dieu va vous ramener si vous êtes son enfant? Même si Satan peut essayer de vous convaincre du contraire, et il le fait. Vos fautes comportent des conséquences. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Le Seigneur ne pourrait pas rester saint et juste s'il nous permettait de nous en tirer avec le péché. Le prix pour suivre notre propre volonté est élevé. Considérez combien Jonas était misérable à cause de ses choix. La récompense d'obéir à Dieu sera toujours plus agréable, même si la cause de notre fuite était motivée par la volonté de sortir des circonstances d'adversité que Dieu permet parfois dans nos vies. Car comme enfants de Dieu, nous n'avons pas à lui demander de nous épargner les afflictions. « Oh Seigneur, épargne-moi des afflictions !» Pas une prière chrétienne. Mais seulement que nous puissions rester, demeurer et devenir ce que nous devons être à travers l'épreuve que Dieu permet dans nos vies. On voit des frères et des sœurs qui souffrent et notre prière c'est « Seigneur, arrête leur souffrance !» Mais si Dieu place des circonstances autour d'eux pour les former au travers de cette adversité, on devrait plutôt prier « Non, Seigneur, ne les guéris pas !» Mais fais l'œuvre dans leur âme pour laquelle cette épreuve est là. Ça réclame du discernement, ça. C'est trop facile de prier « Oh Seigneur, on ne supporte pas la souffrance dans la vie de nos bien-aimés, alors enlève cette souffrance !» Parfois la souffrance, elle témoigne d'une circonstance que Dieu place, au travers laquelle Dieu est en train de se glorifier dans nos vies. Alors Seigneur, amène cette personne là où tu veux l'amener, et alors quand elle aura acquis tout ce qu'elle devait acquérir en toi par cette épreuve, au travers de cette épreuve qui l'a immobilisée, qui l'a dépouillée de ses forces et de ses résistances, alors oui, guéris-la. Mais pas avant que l'œuvre soit complètement accomplie. Si nous essayons d'y échapper, nous sommes semblables à des insensés comme le fut Jonas et bien d'autres comme lui. Le médecin a commencé son intervention, il a ouvert le ventre, il est prêt à intervenir sur l'organe défaillant, et je fais « Hop, arrête, je m'en vais, c'est bon. » Mais tu ne peux pas partir avec le ventre ouvert. T'es encore anesthésié, comment tu vas faire ? Laissez faire Dieu dans votre vie et laissez-le faire jusqu'au bout. L'affliction fait disparaître notre légèreté, notre insouciance. Quand on est passé par l'épreuve, on n'est plus insouciant. On sait que Dieu peut nous rattraper n'importe où. On ne peut plus vivre comme celui qui est insouciant et qui croit que ça passe, Dieu, là, il voit rien. Nous ne pouvons vivre dans l'insouciance. Elle ne nous rend pas toujours meilleurs. Parce que soit la souffrance s'élève, soit elle abaisse. Il y a deux manières de réagir dans nos souffrances et dans nos épreuves. Nous ne pouvons pas nous trouver nous-mêmes dans le succès, car il nous fait perdre la tête. Ni dans la médiocrité quotidienne, car elle génère en nous que sentiment de dégoût de nous-mêmes. Nous ne pouvons nous trouver nous-mêmes que dans la fournaise de l'affliction. Te retrouver face à toi-même. Qui es-tu, toi ? Dans quel état es-tu ? Et Dieu permet l'affliction et la fournaise juste pour que tu te retrouves face à toi-même, dans cette vallée où même tu ne perçois plus Dieu. Il est silencieux, il ne dit plus rien. Il se tait pour mieux que tu sois face à toi-même et que tu te poses enfin les bonnes questions et que tu pries enfin avec les bonnes motivations en face des vrais besoins de ta vie. Il désire aller dans les profondeurs de ton cœur et de ton âme. Et croyez-moi, il peut aller très, 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 très profond. Très profond. Nous ne pouvons... Pensez-vous pouvoir échapper à ce formidable artisan qui façonne les vies, éduque ses enfants et aime jalousement son épouse ? Sincèrement, le lerlera de Dieu à Abraham doit encore résonner dans notre esprit, tandis que l'invitation d'aller à nous-mêmes, va à toi, est à nouveau annoncée ce matin dans l'Église. Brennan Manning dira « La caractéristique dominante d'une vie spirituelle authentique est la reconnaissance qui découle de la confiance, non seulement pour tous les cadeaux que je reçois de Dieu, mais la gratitude pour toutes les souffrances. » Parce que dans cette expérience de purification, la souffrance a souvent été le plus court chemin vers l'intimité avec Dieu. Oui, expérimenter l'intimité de Dieu. On veut tous l'intimité de Dieu, mais on ne veut pas prendre le chemin qui nous y amène. Tu n'as pas un raccourci. Et cette intimité avec Dieu nous conduit à passer souvent par la souffrance. Parce que la souffrance, c'est le raccourci. Le raccourci divin qui nous permet d'apprendre plus vite. Elle est l'école intensive de Dieu pour ses enfants. Elle endurcit celui qui n'est pas enfant de Dieu, mais elle forme celui que Dieu appelle son fils ou sa fille. Comprenons que deux positions nous amènent à vouloir fuir le Dieu omniprésent, et je terminerai là-dessus. Premièrement, la volonté charnelle et pécheresse de sortir de la présence du Dieu saint pour s'adonner au péché sans éprouver une culpabilité qui en altérerait toute la saveur. Je veux fuir Dieu pour kiffer le péché. Sans culpabilité. Ça nous amène à fuir le Dieu omniprésent, mais cette fuite est vaine. Deuxièmement, la volonté d'échapper à la formation divine qui met Dieu en contrainte de nous placer au sein de l'adversité pour renforcer l'intimité entre nous et lui. Parce que ce n'est pas volontiers que Dieu afflige. Dieu ne se réjouit pas de nous faire passer par l'épreuve. Il se réjouit de vivre une relation intime avec nous, et l'épreuve est le moyen final d'y arriver. C'est pour vous dire comment on est dur. Dur. Alors la question qui se pose, c'est quelle est celle qui vous préoccupe ce matin ? Quelle est la raison de ta fuite entre ces deux-là ? Je veux considérer comme le fit David en son temps que Dieu est toujours près de moi, qu'il est partout présent, ou plutôt qu'il n'y a aucun endroit où il n'est pas. Ainsi, assurément, je ne puis pas le fuir, pas même par ma mort. Alors, comme David, je veux réaliser que je suis gardé en tout lieu par la présence de Dieu qui est toujours près de moi. Et cette présence divine ne doit pas être fuie, elle doit plutôt être recherchée. Et même réalisée dans ce que l'omniprésence de Dieu me permet de comprendre et de vivre au quotidien dans ma vie. Elle est à mon bénéfice et pas à mon déficit. Et je vous accorde que cette notion d'omniprésence n'est pas toujours facile à comprendre. Surtout lorsque l'on considère d'un côté que Dieu est présent partout et que d'un autre, il est assis sur un trône dans le ciel. Comment il peut être assis sur un trône dans le ciel et présent partout en même temps? Qu'il ne peut tolérer le mal, mais qu'il côtoie pourtant le diable dans son omniprésence. Dieu est en enfer. Quoi? Dieu est en enfer? Ben oui, il est omniprésent. Y a-t-il un lieu où Dieu n'est pas? Non, mais Dieu n'est pas en enfer. Ben si. Pas facile à comprendre. Qu'il ne peut tolérer le mal, mais qu'il côtoie pourtant le diable dans son omniprésence, qu'il est pleinement présent au tout point de l'espace et donc aussi en enfer, et ça nous dérange profondément. Nous devons toutefois comprendre que sa présence n'agit pas de la même manière en chacun de ces lieux et donc pour chaque personne. Dieu n'agit pas dans l'enfer comme il agit au paradis. Il y est présent, mais pas pour les mêmes raisons. Il n'y agit pas de la même manière. Même en enfer, je pourrais nier. Échapper à Dieu. Dieu est présent pour punir dans certains endroits, pour soutenir et pour bénir en d'autres endroits. Il est le Père dans certaines maisons et le juge dans une autre. Nous devons toutefois comprendre que sa présence n'agit pas de la même manière en chacun de ces lieux. Dieu est pleinement présent en tout lieu. Aussi, il n'y a pas une partie de Dieu au ciel et une autre partie de Dieu sur la terre. Il ne remplit pas l'espace comme l'eau remplit un verre. Rien ne le contient. C'est l'intégralité de son être qui est présent partout. Dieu est esprit, il est au-delà de l'espace qu'il a créé, comme le mentionne 1 Roi 8:27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. On est des chrétiens pentecôtistes, et on dit à tout le monde, Dieu habite dans mon cœur. Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Comment tu peux le contenir dans ton cœur? Alors oui, c'est une belle image. Mais Dieu est bien plus que la place que tu veux lui accorder. On doit réaliser 4 points de ces 6 versets du psaume 139 qu'on a médité. Premièrement, je dois réaliser l'omniprésence de Dieu et cela doit me pousser à la louange. Dieu m'accompagne partout, c'est un privilège. Deuxièmement, je dois être réaliste sur le péché. Certains péchés sont très visibles ou affectent beaucoup de personnes, tant par leurs effets que par la manière dont ils se font. Ils sont connus par d'autres, mais certains péchés sont discrets. Ils sont réalisés dans le secret des cœurs, dans l'imagination. Parfois juste dans l'imagination. Mais Dieu est présent à l'intérieur de nous-mêmes. Comment ne pas reconnaître nos fautes devant lui? Nous, on attend des actes concrets pour se repentir. Mais si tu as déjà convoité, tu as déjà fait le péché. Rien que dans ta tête, il est fait. Ne t'occupe pas que de tes actes. Pense aussi à traiter tes mauvaises pensées devant Dieu. Elles sont parfois même plus nombreuses que les actes. Non? T'as pas autant d'actes mauvais que t'as de pensées mauvaises, hein? Parce que là, il va falloir que je t'emmène consulter. Si j'avais mis cours à toutes mes mauvaises pensées, je serais en prison. Pas vous? Il y en a certains, je les aurais bien... Je serais en prison! Mais je l'ai eu la pensée, vous savez, de... Et rien que de l'avoir pensé, je dois me tenir devant Dieu et lui dire « Mais pardon Seigneur, je suis tellement loin de toi, je ne veux pas que ces pensées-là me privent de ton intimité. Alors je reviens vers toi et je te demande pardon pour ça. Et merci parce que le Saint-Esprit le fait ressortir. Ça prouve que je suis sur la voie du salut, que je ne marche pas vers ma chute. Troisièmement, je dois décider de le suivre. Je ne peux pas me détacher du Seigneur. Il est pour mon bien à jamais soucieux de m'accompagner. Enfin, dernièrement, je ne dois plus avoir peur. Est-ce que ça vous arrive d'avoir peur? Certains vont dire, mais c'est un sentiment normal, la peur. Oui, ça a commencé quand Adam a péché, il a eu peur. C'est un sentiment qu'on trouve normal aujourd'hui, mais qui n'était pas normal au commencement. Et qui traduit quoi en réalité ? L'indépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu, son autonomie, il en découle les peurs. Il n'est pas de table d'opération où Dieu est absent. Écoute bien. Il n'est pas de situation que Dieu trouverait trop profonde ou trop dangereuse. Il n'y en a pas. Rien n'échappe à ses regards. Rien n'échappe à son contrôle. Rien. Dans tout le psaume 139, et plus particulièrement dans cette deuxième partie que nous avons parcourue ce matin, David nous parle de son Dieu. Et il n'énumère pas ses attributs comme une suite de vérités théologiques froides. Voilà, je vais vous expliquer le Dieu omniprésent et puis il fait sa liste de points théologiques. Non ! Il chante Dieu dans un cantique comme une célébration de ce que Dieu fait dans sa vie. Il est toujours avec moi. Peu importe où je suis, peu importe dans quel état je suis, il est là. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, mes regards seront toujours sur toi. Quelle grâce ! Et David chante, il associe ses qualités divines, les qualités divines de Dieu à sa vie personnelle. Il en mesure tout le bénéfice et toute la grâce qui lui est faite. Il parle de la connaissance qu'il a de Dieu par l'expérience qu'il partage avec lui. Pour le roi d'Israël, Dieu n'était pas une série de qualités ou de faits. Il était pour cet homme, selon le cœur de Dieu, un Dieu qui cherche la communion, l'intimité avec ses enfants. Et son omniprésence révélée encore ce matin nous permet de comprendre combien cette intimité est réellement accessible. Dieu est accessible puisqu'il est présent partout. Il n'y a pas un temple où tu vas le rencontrer plus que dans un autre. Il est présent partout. Même dans le ventre du poisson au fond des mers, il était là. Jonas se croyait perdu, pensait qu'il en était fini de lui. Mais Dieu le contenait dans une épreuve à l'intérieur d'un poisson pour mieux travailler le cœur de son prophète. Tout était conduit par Dieu. Tout lui obéissait. Rien n'échappait à son contrôle. Son omniprésence révélée nous permet de comprendre combien cette intimité est réellement accessible. Si nous acceptons de ne plus fuir ce que Dieu souhaite irrémédiablement partager avec nous, à savoir son intimité. Toutes les raisons de nos misères sont expliquées par deux choses. Notre propension à vouloir satisfaire la chair, ça nous fait fuir de Dieu et ça nous met dans des circonstances dramatiques. Si tu es un chrétien au cœur tendre, tu formeras un cœur tendre dans ton enfant. Si tu es un déviant au cœur dur, tu formeras en ta maison celui qui te maltraitera, celui qui n'aura aucun sentiment pour toi et qui te traitera pire que tu ne l'as fait envers lui. Attention, ce que tu sèmes, tu le récolteras.